quand on m'appelle sociologue, ça me surprend toujours un peu parce que je suis ingénieure des formations, donc je suis comme Sylvaine, sociologue d'adoption. Ingénieure agronome, voilà. Et après, j'ai fait de la sociologie de l'organisation. Donc j'ai été marquée plutôt par cette formation-là, n'ayant pas un bagage théorique extrêmement important. Et j'ai débarqué à l'ADEME après avoir fait du conseil. Et je vous dis ça parce que 50 conseils, ça m'a relativement épuisée. Et en toute honnêteté, je suis arrivée à l'ADEME, pas pour me reposer, mais en me disant que ce sera quand même un petit peu plus calme. Parce que c'est sous certains aspects, bref. Et j'ai été recrutée à cette époque comme sociologue. Qui avait obtenu Dominique Bouanet, qui était à l'époque ministre de l'Environnement, qui avait une place relativement inconfortable, comme tous les Verts, dans les gouvernements PS, n'arrivant pas à négocier sur certains dossiers, mais finalement obtenant en retour des ouvertures de postes, dont j'ai profité. Et il y a eu, à l'époque, une centaine de postes ouverts à l'ADEME, hein, c'était pas négligeable. Hein. Et Pierre Radan, qui était président à l'époque, que vous entendez peut-être parfois sur les ondes, qui est un homme plein de charisme, c'est en ça un plaisir d'être recruté par lui, avait ouvert un poste de sociologue à l'ADEME, dans un service qui s'appelle Service économique, parce que quand même, restons sérieux, on ne va pas afficher. Donc j'ai vécu comme sociologue dans un service économique pendant donc de 2002 à 2013, puis j'ai quitté il y a un an ce poste. Moi aussi, mais je m'occupe toujours un peu des sciences économiques et sociales à l'agence. Pierre Radan, il m'a recruté, il m'a convoqué dans son bureau, j'étais relativement impressionnée, et puis il me dit, voilà ce qu'on veut, ce que je veux, c'est que, en gros, on arrive à travailler avec les industriels, avec les grosses entreprises, mais on n'a pas les PME, et puis il y a le grand public. Alors ça, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc il faut qu'on en sache plus sur ces gens-là. Voilà, bon, moi j'étais quand même sociologue des organisations, je ne connaissais pas grand-chose aux enquêtes d'opinion, alors bon, bref. Mais j'ai dit oui, bien sûr, pas de problème. Et j'ai compris quand même que ce qui intéressait la demande sur le poste de sociologie portait beaucoup sur l'opinion, sur les enquêtes d'opinion. Il y avait quand même des enquêtes d'opinion, mais ils voulaient les renforcer. Et à l'époque, il y avait des débats autour des infrastructures et des problèmes dits d'acceptabilité. Et donc, à l'époque, les infrastructures qui posaient problème, c'était les incinérateurs. Il y avait des grosses questions de pollution locale, notamment de dioxine. Il y avait aussi l'histoire de la vache folle, où on devait brûler des troupeaux dans des incinérateurs qu'on a construits exprès pour ça. Et donc, c'était quand même assez chaud. Et il y avait des éoliennes qu'on plantait dans le paysage, qu'on commençait à planter dans le paysage. Donc la sociologie, en gros, devait régler les problèmes d'acceptabilité autour des grandes installations et mesurer l'opinion. Bon, alors, j'ai dit oui à tout ça, tout en me disant, je vais essayer de développer des trucs plus intéressants, parce que le sociologue, il est là aussi pour dévoiler la réalité dont Dominique parlait tout à l'heure, et qu'en fait, j'ai assez rapidement compris que ce n'était pas une réalité dont on parlait si facilement que ça, ou qu'on avait tellement envie, le sociologue a envie de la dévoiler, cette réalité, mais mes interlocuteurs n'étaient pas forcément si friands que ça de la voir, de l'entendre. Et j'ai connu ma première déception relativement rapidement, puisque pour le coup, j'avais un chef de service très ouvert, donc j'avais un budget relativement important et... une assez grande marge de manœuvre pour lancer des études et des recherches. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'était 700 000 euros à peu près le budget que j'avais, donc 500 000 de recherche. Donc c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui le service économie sur la sociologie. Donc c'était important et je m'offre le plaisir de lancer une étude sur la gestion des biodéchets par les collectivités locales, qui était déjà un sujet. Un sujet qui est toujours pas réglé en France, c'est un vrai serpent de mer. Et puis, mais à la demande de la direction des déchets, qui me dit, oui, quand même, c'est une filière intéressante. Il y a quelques communes qui collectent séparément les biodéchets. C'est une filière prometteuse. Le problème de la matière organique pour l'agriculture est crucial. Autrefois, les villes et les campagnes vivaient
dans un cercle intéressant où les matières organiques prélevées de la campagne et consommées en ville retournaient après dans les campagnes. Ça s'est rompu au cours du XXe siècle. Il faudrait penser, parce qu'il y a un sens écologique, etc., à ce retour de la matière organique. Je dis très bien, mais on va faire une enquête sociologique dans les communes qui font ce tri sélectif des biodéchets, puisqu'il y en avait quelques-unes, pas nombreuses. Et à mon grand désespoir, suite à cette enquête, j'organise une réunion de restitution où il y avait du monde, mais il n'y avait pas de chef. Donc j'avais que des ingénieurs de terrain, passionnés par la question, ravis de comprendre les logiques d'acteurs, ravis de comprendre ce qui se jouait pour eux. Mais pas de chef, c'est quand même embêtant, parce que du coup, pour l'appropriation des résultats, ce qu'on va en faire, et même celui qui m'avait commandé l'étude n'était pas là. Bon, et on décelait à l'époque, notamment, un des résultats, c'était de montrer que les collectivités, finalement, arrivaient à le collecter à peu près, ce flux, c'est-à-dire que les ménages... Tant bien que mal, ils s'y mettaient. Ils ne mettaient pas tout, ils ne mettaient pas les arêtes de poisson parce que ça sent très mauvais après. Ils mettaient plutôt des légumes, plutôt des épluchures de légumes, etc. On voyait des marges de progression, mais on voyait que les collectivités arrivaient à mettre en place ce tri. En revanche, leur problème, c'était qu'une fois qu'elles avaient cette masse de biodéchets, bon, elles les moulinaient, etc., mais elles ne savaient pas quoi en faire, il n'y a pas de marché derrière. Donc, problème. Donc on voyait, c'était intéressant, ça voulait dire que peut-être il fallait créer des filières derrière, on pouvait voir des recommandations derrière, mais comme il n'y avait pas de chef, on en est resté un peu là. On a reposé les mêmes questions régulièrement sur les biodéchets, etc. Et la réalité, je me suis dit, au fond, il y a aussi un problème, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie de voir ces résultats, c'est peut-être aussi, et c'était le sens de mon intervention tout à l'heure, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre sur ce que la sociologie dévoile, quoi. Ça, c'est une question qui, à mon avis, est importante. C'est pour ça que maintenant, je me pose la question de savoir si l'ADEME, enfin, quel est l'intérêt de faire des travaux sociologiques si, au fond, derrière, on ne sait pas. On ne peut pas, on n'a pas de levier pour agir. Et l'ADEME n'a pas une marge de manœuvre infinie, loin de là. Donc ça, première petite déception, mais ce n'est pas grave, on continue, on creuse. Donc comme je vous le disais, j'avais un chef de service très ouvert, très intello, donc lui, ça l'intéressait. Ça continue à faire, à explorer différents chantiers. Avec cette ouverture qui était vraiment intéressante. Du coup, j'arrive 4 ans plus tard à monter un réseau interne parce que cette histoire d'études sociologiques qui recouvre d'ailleurs pour les gens une réalité extrêmement variée à l'agence et plus largement touche la sensibilité de certains. Et vous voyez, par exemple, l'étude sur les biodéchets, ça les acteurs de terrain, ça les passionne, parce qu'eux, ils sont en contact avec des gens de terrain, ils voient bien les jeux de pouvoir, ça les explicite, ça les analyse, ça leur permet de prendre du recul, éventuellement, ça leur permet d'intervenir avec plus d'acuité. Et donc, à l'intérieur de la maison, il y a un petit réseau que j'anime. Et en 2007, on monte une journée recherche où il y a pas mal de monde, où on présente un peu des grands résultats autour des 3 pôles, enquête d'opinion, ça c'est incontournable, vous faites de la sociologie, forcément vous avez des enquêtes d'opinion, donc vous dites ce que les gens comprennent de l'effet de serre, s'ils sont d'accord pour qu'on supprime la circulation des voitures en centre-ville, etc. Il y avait une autre table ronde autour des systèmes d'acteurs, donc là on présentait quelques travaux de recherche, puisque j'ai continué à faire un peu de socio des orgas, même si ça n'excitait pas, ça n'aiguisait pas les appétits des chefs, en tout cas. Et puis, il y avait une troisième table ronde qui était des projets qui commençaient à monter de plus en plus. On est en 2007. Michel Papalardo, qui est notre nouvelle présidente depuis 3 ans, n'est pas pour rien dans cette affaire. Et puis, plus généralement, c'est l'évolution des actions de l'État, c'est une table ronde autour des petits gestes et des décisions individuelles. On est bien dans une politique qui s'adresse aux citoyens directement, hein, et on est dans la réforme des comportements. Et ça, c'est quelque chose qui, quand je suis arrivée à l'agence, n'existait pas vraiment comme ça, donc en 2002, mais par contre, alors là, en 2007, 2006, on est dedans. Et du coup, le hiatus augmente un chouïa de plus à ce moment-là, parce qu'on va demander non plus aux sociologues de suivre l'opinion ou de faire accepter, de faire passer la pilule autour des installations, on va lui demander de réformer les comportements. Merveilleux comme programme. Donc, alors là, par exemple, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, il y a le défi Nicolas Hulot. On veut enrôler, c'est la politique réformatrice, mais l'environnement n'est pas le seul domaine touché par cette volonté de faire porter la responsabilité sur nous tous, puisque nous avons entre nos mains l'avenir de la planète, et à chacun de prendre ses responsabilités et de faire ce qu'il faut. Hein, de faire ce qui est bien, le bien. Donc on est maintenant les arbitres du bien et du mal dans les maisons. Alors ça augmente le hiatus, parce qu'effectivement, alors, en fait, pour les ingénieurs, pour les décideurs de l'ADEME, il y a un problème qui est la dégradation de l'environnement, problème louable, et enfin voilà, donc il faut régler ces problèmes environnementaux. Donc on regarde la façon dont on produit, la façon dont on consomme, et on regarde dans les deux cas quelles seraient les voies les meilleures techniquement, hein. Donc si je suis énergéticien, je regarde comment on produit l'énergie et je me dis vaut mieux si j'habite à l'ADEME, je me dis qu'il vaut mieux produire avec du PV, avec de l'éolien, etc. Et si je suis toujours énergéticien et que je vais dans les maisons, je dis aux gens, je regarde comment ça se passe en tant qu'énergéticien et je dis le compteur il tourne trop vite, il faut se calmer, la voiture elle circule trop, etc. Donc on a une lecture monocritère, un peu monomaniaque, hein. Un ingénieur, il a un critère, l'énergie. Et on voit d'ailleurs dans l'exemple de la tour Elitis que quand on a le critère énergie, on n'a pas le critère déchets, on n'est pas multicritère. Ce qui, dans la maison, crée des conflits internes. Hein. Je veux dire, à l'ADEME, il y a des gens qui promeuvent les ENR, qui ne sont pas toujours d'accord avec les gens qui font de la MDE, de la maîtrise de la non-énergie, et qui vivent sur une autre planète que les gens qui gèrent les déchets, enfin, qui s'occupent du traitement des déchets, et etc., etc. C'est-à-dire que le sociologue, lui, va révéler d'autres contraintes encore, mais à l'intérieur de la maison, déjà, les monocritères s'affrontent entre eux. Je vous donne un exemple de politique qui dévoile ce genre de conflit. On met en place le bonus-malus sur le critère CO2. Très bien. Normalement, le bonus-malus, on l'avait travaillé pour aller sur plein d'autres sujets. Hein. Et les deux roues, par exemple. Mais alors là, il y a des gens qui sont réveillés dans la maison en disant « Eh, les deux roues, ça émet autre chose que du CO2 et c'est plus nocif pour la santé que le CO2. » Du coup, on le consigne juste aux voitures. Du coup, on oriente quand même la politique d'achat des voitures vers des diesels, qu'aujourd'hui, on montre du doigt, pour d'autres raisons. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la mono-rationalité, un peu, hein, si je suis changement climatique, je vais être obsédée CO2 GES. Et puis, je ne vais pas tenir compte d'écotoxicité, etc. Et alors, si je rajoute le sociologue derrière à la fin, lui, il va encore avoir d'autres rationalités qui vont apparaître dans les choix. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, comme disait Dominique tout à l'heure, on ne simplifie pas la vie des décideurs. Alors, on est à une époque donc où on nous demande de réformer les comportements. On est à une époque aussi, 2007-2008, avant la crise, d'une certaine manne financière. Donc c'est une époque où il va y avoir une certaine générosité. C'est le moment du lancement d'un programme de recherche inédit dans la maison, uniquement dédié aux sciences économiques et sociales, qui s'appelle Déchets et Sociétés, sur le domaine des déchets. dans les déchets, ils ont de l'argent. Et il y a une volonté politique d'un décideur qui dit qu'il faut quand même organiser un peu tout ce qui se passe dans les sciences économiques et sociales. Faisons un APR dédié à ça. Donc ça, c'est un outil intéressant, structurant, qui vient à cette époque et qui a duré 5 ans et qui se termine aujourd'hui. Mais, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les temps ont changé. On nous dit faire des APR exclusivement sciences économiques et sociales, c'est quand même... c'est s'afficher un peu trop, donc il vaut mieux s'insérer dans des appels à propositions de recherche technique, celui dont parlait sur le service bâtiment, là, donc, par exemple. Donc il faut imposer un peu de sociaux, les grainer de ci, de là, et faire des projets mixtes, etc. Donc pour l'instant, mais mes espoirs ne sont pas complètement nuls et non avenus, j'espère pouvoir encore initier d'autres choses plus sciences économiques et sociales, mais disons qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps de ça. Donc là, on est en 2008-2009, on a encore cette effervescence, il faut réformer les comportements, la science économique et sociale, on la mobilise, et on a de l'argent. Après, en période de vache maigre, voilà. Donc, et là, on avait encore du budget important. Alors, ça s'est calmé, parce que vous savez que le Grenelle, après l'environnement, il y en a marre, on a attendu le changement de gouvernement, etc., puis finalement... Ça s'est refroidi, tous ces sujets-là, quand même, hein, fortement refroidi. Et du coup, ce qu'on peut voir au plan sciences économiques et sociales, ça s'est aussi assez refroidi. Avec la volonté pour l'agence de se concentrer sur des débouchés opérationnels, de l'action, des plans d'action... vraiment de la finalisation, quoi. On ne fait plus de la recherche pour la recherche. On veut savoir quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour véritablement changer, évoluer. Donc, ce qui est difficile, en fait, dans la commande, c'est que on sait bien que quand on fait de la sociologie et qu'on observe la réalité, on va découvrir des contraintes. Par exemple, ce que nous disait Delphine pour la tour Elitis. Finalement, on nous dit qu'il y a des problèmes de management ou de gouvernance. Donc, sauf qu'à ce moment-là, l'ADEME... On ne va pas intervenir sur la façon dont les entreprises managent. Où est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas, est-ce qu'on est légitime? Notre métier de base, c'est quand même de savoir comment une éolienne performante fonctionne. Donc, le déplacement appelé par Jérôme tout à l'heure du commanditaire est peut-être en chemin, mais on avance tout doucement sur ce déplacement, hein, parce que c'est une remise en cause C'est pas seulement une remise en cause, c'est qu'il faut voir qu'en face, on a un public d'ingénieurs qui sait produire de la technique ou perfectionner la technique ou qui sait répondre avec de la technique. Donc, quand on lui dit c'est un problème de management, et on regarde, oui, c'est très intéressant. Ok, mais voilà, c'est pas dans nos clous d'une certaine façon. Donc, ça les dérange assez. Donc, alors, que peut faire la sociologie? Alors, il y a eu un certain intérêt pour les disciplines comme la psychologie de l'engagement, des choses comme ça, qui proposent les nudges, on parlait aussi Dominique tout à l'heure, qui proposent à l'administration des outils opérationnels performatifs, comme l'économie fait, parce que l'économie, tout le monde écoute, hein, et on modélise, on dit voilà, si vous mettez le crédit d'impôt à 25%, il y a tant de personnes qui vont faire des travaux, et tatati, et tatata, donc on y va, on appuie sur le bouton, ça part, finalement ça marche pas comme prévu, mais ça, tout le monde l'oublie, et on recommence pour le coup d'après. Alors, donc la sociologie ne propose pas d'outils tellement performatifs, sauf justement les nudges, la psycho-d'engagement, des choses comme ça. Voilà. Alors, donc c'est un combat quand même, c'est un combat parce que dans la réforme des comportements, quand on dit juste, mais finalement, vous savez, les questions que vous posez, c'est pas forcément là que les problèmes sont. Les gens, ils veulent pas faire des travaux. Oui, certes, il faut leur donner les moyens financiers, mais c'est aussi parce que il y a des contraintes liées au fait qu'ils se sont installés, qu'ils ont fait, ça fait 3 ans qu'ils sont installés, qu'ils ont fait toute la décoration et qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans les travaux. Bah oui, ma bonne dame. Mais alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, on essaie de travailler. Hein. On leur dit, ben, par exemple, avant de déménager, ça paraît très important de travailler la question, de réserver une partie du budget à la question des travaux, de sensibiliser les gens au moment où il est encore temps, parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans les murs, etc. Voilà. On essaie d'avancer sur des pistes. Sur le bonus-malus, je vous en ai parlé. J'avais fait faire une étude sociaux aussi. Alors là, les résultats, c'était pas qu'il y avait des problèmes avec les partis. Enfin, c'était pas un sujet technique, mais c'était finalement les gens, ils ont l'impression, vu comment c'est vendu, d'abord ça multiplie les ventes de voitures. De fait, comme ça, là, ça fait pas très développement durable. Parce que finalement, c'est les vendeurs, c'est les concessionnaires qui se sont servis du bonus pour vendre de la voiture. Bon, ça faisait une remise, quoi. Donc, quand vous mettez en place un dispositif exclusivement économique, utilisé par des concessionnaires de voitures, promu par des concessionnaires de voitures, vous êtes en train d'accélérer la vente, quoi. Bon, alors, vous remplacez des véhicules très polluants par des véhicules moins polluants, donc ça peut être intéressant, mais il y a de la consommation de matière, de ressources, etc. Enfin, bon, ça peut poser problème, quand même. Et puis, en plus... les gens ont l'impression qu'ils ne polluent plus, enfin certains en tout cas, que du coup, là, ça y est, ils peuvent se lâcher, quoi. La voiture, elle ne pollue plus, ma voiture. On a des extraits d'entretien où les gens disent « c'est génial, je ne pollue plus en voiture ». Donc, peut-être que faire passer la mesure par des concessionnaires, peut-être que seule une mesure économique, ça ne marche pas très très bien, etc. Donc, on amène... On essaye d'amener en même temps que les constats des recommandations, mais voilà, au moment de l'étude, je peux vous dire qu'en tout cas, je me suis pris des scuds monstrueux du service transport parce que je me permettais de critiquer, enfin c'est pas moi, c'est les résultats de la sociologie, hein, je me permettais de dire que éventuellement peut-être la mesure telle que il fallait complexifier un peu le dispositif, le rendre pas faire forcément porter par les concessionnaires, etc. Donc, c'est assez violent hein, en interne. Hein, bon, voilà. Et donc, je suis restée 10 ans dans ce poste. Bon, je me suis bagarrée. Et puis, je pense que j'ai aussi laissé un peu l'affaire parce que c'est un peu fatigant. Parce que finalement, le service bâtiment a réédité un APR cette année. Là, je ne voulais pas amener, mais la rédaction de l'APR nous a, du point de vue du service économie, consternés, parce qu'ils veulent résoudre leurs problèmes opérationnels, et on a beau leur expliquer que c'est... Il faut encore comprendre comment les gens vivent, sous quelles contraintes ils sont et chercher là où on peut faire bouger. Ils n'en ont pas voulu de notre texte. Hein, et le texte qui est sorti nous est resté un peu en travers de la gorge. Donc c'est un combat. Donc, moi, je me suis un peu retirée du combat après avoir... Mais j'ai des collègues et j'ai été remplacée, ce qui est quand même pas mal parce que c'était pas gagné. J'ai été remplacée par quelqu'un en interne. Et en fait, si vous voulez, donc il y a toujours cette espèce d'appétit. Et en même temps, quand on dévoile la réalité, du coup, ils sont contents. C'est folklorique, mais bon, on n'en fait pas grand-chose. On passe à autre chose. C'est ce que disaient les deux témoins tout à l'heure. Avec des soubresauts de « je t'aime pas », enfin, vous voyez, cette espèce de, bon, d'aller-retour. Et alors, le dernier aller-retour dont ils ont été, qu'ils ont fait est incroyable. On a un chef de service adjoint qui est parti. Et ils ont fait une première fiche de poste en avril. En gros, ils demandent un économètre prospectiviste. Et puis, il n'a pas été pourvu, ce poste. Et ils ont rouvert une fiche il y a 2 mois. avec cette fois de qualité managériale demandée, plus sociaux. C'était. Alors pourquoi c'est sorti comme ça? Parce qu'il y a notre président actuel a demandé au cabinet CAP, à Stéphane Rosès, de faire une étude stratégique de positionnement de l'agence et il a pointé du doigt que c'était très important la socio. Donc finalement, ils ont réécrit une fiche de poste qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec la précédente à 6 mois d'écart. Bon, jusqu'au prochain soubresaut dans un sens ou dans un autre. Alors, ce qui est difficile, c'est que on est sujet à cette quand je vous ai dit j'avais réussi à créer un réseau, il existe toujours. C'est lié à la sensibilité, une espèce de sensibilité. Alors, il n'y a pas que des femmes dedans, il y a quelques hommes, mais c'est assez féminin quand même, hein. Faut bien le dire. Hein. Alors, une sensibilité humaine, on va dire, ou je ne sais pas comment il faut dire. Et est-ce qu'il y a un effet de génération? Je l'espère un peu, mais bon, faut rester modeste parce que il y a des parcours qui n'ouvrent pas à la question humaine. Et donc, voilà. Et ma question aujourd'hui, c'est que quelquefois, je me dis, est-ce que faut pas laisser l'ADEME faire son boulot d'ingénierie brute de décoffrage? Voilà. Et puis, je me pose la question de la place de la sociologie vraiment. Alors, on a distillé comme ça, on a mis des petites graines chez des ingénieurs, il y a eu des travaux qui ont été faits, qui ont été intéressants, on a fait des programmes de recherche, on a mobilisé des communautés de chercheurs. Donc on a amené des chercheurs à creuser des questions qui nous intéressaient, ça c'est utile. Mais au sein de la maison, sur la décision publique, voilà, nous on nous demande de financer de la recherche qui a nourri la décision publique. Bien sûr, on dit qu'on le fait, hein, et on dit qu'on a apporté quelque chose aux lois qui sortent aujourd'hui, et que s'il n'y avait pas eu ces dispositifs de recherche, les lois ne seraient pas écrites tout à fait de la même façon. Peut-être, probablement, mais c'est difficile, quand même. Parce que, là encore, et je pense qu'on tombe sur une vraie difficulté, c'est-à-dire que l'information que produit, pour reprendre le terme de Dominique, hein, l'information que produit le sociologue, dévoile une réalité que n'ont pas forcément envie de voir les décideurs parce que ça leur complique la vie et qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'agir sur ce qu'on leur pose comme problème, comme nouveau problème. Et puis, voilà, donc ça me paraît être un nœud quand même, une difficulté. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, après, au service de qui elle tombe, et c'est là qu'on peut reprocher, à juste titre, de servir les intérêts de certains et pas d'autres. Voilà, parce qu'elle est instrumentée par certains. Donc nous, ça va, on porte les économies d'énergie, donc c'est très sympathique, hein. Mais ça pourrait être... vous voyez, il y a un problème de fond quand même. C'est au service de quoi on porte cette information. Et on l'a... Voilà.